la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les directionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un ou quand il n'y en a pas un.
Bonsoir et bienvenue pour votre émission littéraire Un livre sur le zinc en partenariat avec la médiathèque départementale de Lozère et la librairie La Livrerie. On est sur la dernière émission de l'année, alors là c'est un peu une émission fête, hein, on fait la fête. Alors on n'est pas en direct pour une fois, on enregistre un peu en amont parce que juin arrive et on a plein de choses à faire. On se retrouvera ensuite bien sûr en septembre pour une nouvelle saison. Là c'est la fin de la saison et du coup on a toutes nos chroniqueuses et notre chroniqueur Thomas qui est là. Salut Thomas.
Salut, ça va ?
Ça va bien, écoute, avec ce beau temps, cette belle chaleur, et là aujourd'hui on va vous présenter nos livres qui ont un peu marqué notre jeunesse, notre adolescence, ces livres qui nous ont donné envie de lire, et que va nous présenter notamment Popo qui est là, qui était revenu lors de la dernière émission.
Salut tout le monde.
On a Laurie qui était là aussi et qui est de retour, salut Laurie.
Salut.
Marlène, salut Marlène.
Salut.
Élodie, toujours présente, salut Élodie.
Toujours au rendez-vous, salut.
Et Valérie qui n'a pas préparé de livres mais qui va bien nous en présenter quelques-uns.
Bah, je vais bien réussir à parler des livres qui marquent les vies.
Qui marquent les vies, oh.
Qui marquent les vies, pardon. Excusez-moi, c'est
d'accord.
Mon accent.
T'es pas sympa de piquer la blague d'Élodie. Hein.
Elle aurait pas osé la faire.
Ouais, je sais
non,
pas.
Je suis trop timide.
D'accord. Du coup, c'est un peu une émission freelance. Hein. On n'a pas trop préparé d'introduction,
en
on a préparé de lancement. J'ai pas demandé de biographie parce que sinon j'aurais su qu'est-ce que vous allez présenter. C'était pas drôle. On va commencer par Marlène parce que Marlène a 3 livres à nous présenter lors de cette émission. Et c'est celle qui en a le plus, qui l'ont marqué dans sa vie, Marlène.
Ouais, ça craint.
Eh ben écoute, non, c'est bien. Déjà, tu t'es arrêté à 3.
Parce que c'est voilà. La plus vieille.
Ouais. J'attaque. Je suis pas.
C'est ça. Pas elle a commencé tout. À lire en 1870, Marlène.
73, elle a dit tout à l'heure.
73.
On n'a pas le même âge, Val.
Il se pourrait, mais j'ai jamais dit qu'elle était jeune.
Du coup, c'est un livre que je n'ai pas, puisque ma fille l'a pris quand elle l'a vu sur ma pile. Elle a fait « Ah, je vais le lire ouais, ». Très bien. Le premier livre, c'est tout simplement le premier livre que ma maman m'a offert et qui m'a donné envie de devenir bibliothécaire. Voilà.
Ah ben c'est bien alors. Ça,
donc celui-là, il a droit d'être sorti à chaque fois que j'en parle. Donc tous mes concours, ils y ont eu droit. Tous mes oraux, ils y ont eu droit. Voilà. Donc elle m'a offert Fifi Princesse d'Astrid Lindgren. Mm-hmm. Voilà. Donc c'est le deuxième tome de la série Fifi Brin d'Acier. Ça date un petit peu parce que du coup, c'est un livre qui date des années 1979. Mais Lindgren, elle l'a écrit dans les années 50, mais elle ne l'avait pas encore publié. Voilà. Alors, Fifi Brin d'Acier, en plus, c'est une héroïne assez rigolote. Donc, c'est une petite héroïne avec 2 tresses et puis plein de taches de rousseur. Il y a eu une émission de télé, une petite série qui avait été faite, que je n'ai pas vue. J'étais pas née à cette époque-là. Non, c'est que je ne le regardais pas, c'est tout. Voilà, et donc en fait, cette petite jeune, elle est super parce que du coup, maintenant, ce serait un livre qui serait présenté dans Égalité des sexes, on va dire, parce qu'en fait, elle fait tout plein de choses comme les garçons. Et en fait, elle est plus forte que les garçons. Donc, elle vit avec un petit singe, je ne sais plus comment il s'appelle, monsieur, je ne sais plus comment... J'ai pas le livre, donc je me... et un cheval. Et elle arrive à porter son cheval à bout de bras. C'est génial. Voilà. Et en fait, il lui arrive plein d'aventures. Elle a une imagination débordante. Elle va en plus défendre tous ceux qui s'attaquent aux autres méchamment, quoi. Donc, dans la cour de l'école, voilà, les petits voyous, elle les fait fuir, quoi. C'est une fille, mais c'est moi qui les fais fuir. Trop bien. Elle va inventer plein d'histoires. Ils vont partir à l'aventure. Et donc, dans ce tome-là que moi, j'avais lu, Fifi Princesse, eh ben, elle s'invente tout ce monde où c'est elle la princesse d'un château. Voilà. Parce qu'elle a secouru plein de monde et que du coup, ben, maintenant, c'est elle, en fait, voilà, qui sera au centre de l'histoire.
Elle rêve pas d'être bibliothécaire.
Non, pas du tout.
Non, d'accord.
Pas du tout.
On ne saurait plus. Hein.
Mais voilà, c'est la petite héroïne pleine de dynamisme qui du coup bah déjà pour l'époque c'était un des premiers livres où justement bah, toute ce comment dire ce, cette image de la petite fille on la change et tu peux aussi faire plein de choses comme les garçons etc avoir des épées faire le chevalier enfin tout ça c'est autorisé quoi donc vas-y lâche-toi donc je l'avais pas forcément lu comme ça à l'époque bien entendu mais c'est vraiment le premier livre qui vraiment m'a donné envie de devenir bibliothécaire et c'était même pas je lis, j'adore lire, c'était je lis mais je veux le dire à mes copines, à mes copains quoi. Lisez-le, c'est trop génial quoi. Voilà. Donc voilà, la petite à quel histoire âge tu personnelle. L'as lu ? Ah oui, complètement, j'avais 7 ans.
7 ans.
Ouais.
1877.
non, pas du tout. pas du tout. Du coup pour moi 1989 okay. 89 90. Voilà.
T'es beaucoup plus vieille alors.
Eh, je suis beaucoup plus vieille.
Ok, génial. Et voilà. Du coup, tu as lu les autres tomes en suivant ?
Non, non, pas du tout. Fifi Brin d'Acier, ouais, j'ai lu que celui-là.
Et t'as pas eu envie après coup
Mais non, parce qu'après, j'en ai eu plein d'autres. Après, j'ai eu plein d'autres livres d'aventure et tout ça, mais d'autres choses.
Bon, voilà. C'est quoi t'offrir alors pour,
Voilà, mais c'était. Non, mais c'était.
Le voilà. Prochain anniversaire.
Et voilà, c'est quand même. Enfin, bon, ça. Ça a défini tout mon parcours pro aussi, quoi. Donc à partir de là, j'ai décidé que je ne ferai que ça. Donc c'est quand même fabuleux. Donc c'est merci maman en fait parce que sans elle et sur des conseils d'une très bonne libraire à l'époque. Du coup elle m'avait dit je savais pas trop quoi t'offrir et tout et c'est la libraire qui m'a donné les conseils. Donc comme ça ça regroupe tout ce soir. Ça permet aussi de dire que voilà les libraires c'est important, les bibliothécaires c'est important et le monde du livre mais allez-y quoi. Il y a plein d'histoires fabuleuses.
Je crois qu'on peut arrêter l'émission là.
Ouais, ben oui on va rester sur cette
belle touche. C'est pas mal comme intro non.
C'est bien parce qu'on a resté.
Et comme
pas
disait l'autre.
Ouais. Au revoir. Ok, ben merci Marlène. Bah écoute, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre comme ça.
Comme par hasard.
J'ai pas à choisir.
Alors moi, je sais pas trop par quoi je vais commencer. Si je vais commencer par le plus vieux.
Bah oui.
Alors,
le premier que tu as lu est du plus. Non,
alors, non, parce que Marlène, elle en a trois. Bon, en fait, j'en avais tellement que je me suis dit, qu'est-ce que je. Enfin, voilà, il va falloir que je fasse un choix et ce n'était pas possible. Et je me suis rendu compte dans ma petite liste de tous ces livres qui m'ont vraiment marqué qu'ils avaient tous un point commun. Alors, je vais vous dire les titres de ces livres et vous allez me dire si vous arrivez à voir quel est le point commun entre ces livres. Ils ont aucun rapport.
Moi aussi, j'ai un jeu.
Alors, j'adore les jeux.
Alors, si je vous dis Michel Strogoff. Jules Verne, 1876, ok. Surtout la scène où il fait semblant d'être aveugle, je ne sais pas si vous voyez. Le meurtre de Roger Ackroyd, Agatha Christie. L'alchimiste, Paulo Coelho. Okay. Et La grand-mère de Jade, que j'ai ici, de Frédéric Degert. Est-ce que vous arrivez ? Alors, on a l'impression que ce n'est pas du tout les mêmes styles de livres. On a l'impression, bah, déjà, c'est des époques complètement différentes. Ils ont tous un point commun.
La cécité.
Non. Je vous le dis.
Oui, dis-le bah
oui,
parce
bon,
que là,
ce sont tous des livres à twist final, ce qu'on appelle des livres avec une fin à laquelle on ne s'attend pas. Et je me suis rendu compte que tous ces livres-là qui m'ont marqué, c'est des livres dans lesquels je me suis laissée embarquer presque, qui m'ont ennuyée et au dernier moment, qui m'ont complètement retourné des situations auxquelles on ne s'attend pas vraiment avec un dénouement incroyable. Et on se dit quoi ? Et chacun de ces livres-là où je me suis dit mais en fait j'ai trop envie de re-relire le livre avec cette nouvelle lecture.
Et, oui. Et donc il faut tenir aussi parce que si c'est ennuyeux, faut tenir aussi.
Michel Strogoff, c'est un peu long, mais mais pour le coup, c'est vraiment des livres qui m'ont marqué parce que je me suis waouh, waouh. Et donc je recherche maintenant dans mes lectures des livres qui vont recréer à chaque fois cette émotion-là où je me dis waouh, ça je m'y attendais pas. Voilà. Et
donc tu vas lire mon livre.
Ah bah j'ai hâte. Voilà, donc c'est ces livres-là qui m'ont marqué, mais parce qu'ils ont tous ce point commun-là que j'ai trouvé chez eux.
Ok, mais vas-y, tu peux le présenter. Ah non, c'est
La grand-mère de Jade.
Ah ben, t'es là pour présenter un livre.
Alors, La grand-mère de Jade, il est assez récent, hein, il date de 2009, mais il est quand même super, c'est ma mère qui me l'avait fait lire. Et c'est l'époque, vous savez, où on est quand même avec une trentenaire qui apprend que sa grand-mère est malade.
Ah non, le livre.
Et qu'il faut aller la chercher en maison de retraite. Ça fait très longtemps que je l'ai lu. Hein. Et donc c'est dans, elle va créer un lien très spécifique avec sa grand-mère. On est sur les liens intergénérationnels, on est sur vraiment l'héritage affectif et littéraire de sa grand-mère. Et alors je peux pas vous raconter la fin du coup, mais on se rend compte que tout ce qu'on a imaginé dans le livre, en fait, c'est ce que s'imaginait l'autrice et qu'en fait c'est pas du tout ce qui se passe dans la réalité. Et donc du coup on est embarqué dans cette histoire de cette relation de cette fille, de cette Jade avec sa grand-mère. Et moi j'ai pleuré, hein. Franchement j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à la fin, et j'ai vu ma grand-mère différemment et tout mon relationnel sur la fin de vie de ma grand-mère a été différent parce que j'ai lu ce livre-là. Et j'ai eu cette nouvelle patience avec toutes les personnes âgées que j'ai rencontrées grâce à ce livre-là. Donc je le conseille à beaucoup, beaucoup de gens. La grand-mère de Jade.
Merci.
Sens ton émotion un peu là.
Ah ouais, non, il est magnifique ce livre.
Tu as pleuré toutes les larmes de ton corps ?
Ah ben oui, enfin j'en ai encore plein. Hein, des
ça se voit
de
pas,
corps.
Ouais. Je vais te dire. Merci Elodie. On sait maison d'édition. Alors je t'ai pas demandé parce que.
Alors sur
tu
celui-là, c'est Actes
Marlène.
Sud, mais il a été édité, réédité plusieurs fois. Voilà, mais celui-là, c'est Actes Sud.
Il doit être chez Babel, non ? Encore.
Et moi, je l'avais pas lu dans cette édition-là. Je me rappelle plus dans quoi il était, mais celui-là, voilà, celui de 2009 en tout cas. On l'a à la médiathèque départementale, pour ceux qui veulent l'emprunter dans une des bibliothèques de Lozère.
Voilà.
Je fais la pub un peu.
Mais t'as bien
tu as bien raison. Merci Elodie. Valérie.
On fait du premier qui nous a marqué, vraiment le tout premier
non,
que j'ai lu.
Non, on a le temps, tu fais ce que tu veux.
Non, mais je vais faire ça. Alors, je vais vous parler de c'est un footballeur.
C'est pas possible.
Qui va oser un jour.
Tu sais que j'ai eu 2 heures pour préparer l'émission et j'ai commencé à travailler sur Joël Batz.
Batz, gardien
je me suis dit,
de ma vie.
Et j'ai retrouvé mon livre et j'ai mis un marque-page à la 38e page.
Ah, je sais,
38e. Et j'ai jamais dépassé la 38e page. Ah, je me suis toujours arrêté pour regarder les photos parce que
oui, parce que c'est illustré à partir de la 38e page.
Et j'ai relu et hop, 38e page, je sais pas pourquoi.
Après, c'est quand même l'autobiographie.
Les critiques sont formidables. De... Hein.
La critique.
Derrière le ballon, un homme, tu vois, je cherchais un peu pour savoir ce que les gens pensaient, mais j'ai abandonné. Enfin, vas-y, excuse-moi.
Non, mais je ne vais pas en parler, c'est trop d'émotion. Puis bon, c'est un peu le fil rouge, il faut quand même que je prononce gardien de ma vie à chaque émission depuis,
sinon,
depuis combien de 10 ans ?
Non,
c'est
ouais,
combien
de 10 ans,
voilà.
Je sais pas.
Non, moi, celui qui a marqué ma vie, mais il est vraiment étrange, alors ne le cherchez pas, vous ne l'avez pas dans vos bibliothèques, parce que je pense qu'il a été interdit depuis. C'est L'étrange métamorphose d'Anaïs, c'est Salut papa si tu m'écoutes, qui un jour nous a ramené ça à la maison, un livre qui, je pense, était prédestiné à être un livre pour enfants, sachant que moi, mes sœurs étaient plus grandes. Et moi, je l'ai pris comme un livre de 1986, donc j'avais
5 ans.
Voilà. Du coup, voilà, ça raconte l'histoire d'Anaïs. Anaïs, elle vit... Alors, pour moi, c'était le grand épuisement parce qu'elle était en Bretagne. Enfin, on suppose qu'elle était vers les falaises.
La Bretagne, toujours,
voilà. Hein. Et ses parents, en fait, ils vivaient dans un grand château. C'était deux personnes totalement fantasques. Le père collectionnait les chapeaux, la mère les perruques. Et elle, sa passion dans la vie, c'était manger des carottes. Alors, je vous l'ai dit en préambule, je pense que ce livre a été interdit depuis parce qu'il peut donner des cauchemars. Et les parents d'Anaïs, en fait, c'est la jeune fille qui ne mange que des carottes, étaient des naufrageurs. Alors pour la jeune fille de la montagne que j'étais, déjà être au bord d'une falaise, au bord de la mer, c'était exotique. Mais alors naufrageur, ce métier qui consistait à faire échouer des bateaux contre une falaise pour les piller, quand on a 5 ans, c'est un peu surprenant. C'est pas très, très moral. Et voilà, et les parents étaient en fait des naufrageurs, alors qu'ils semblaient, malgré le fait qu'ils soient fantasques, être des personnes absolument fabuleuses. Et donc là, un soir d'abus de carottes, Anaïs se transforme, se métamorphose. Forcément, puisqu'elle a mangé trop de carottes, elle se métamorphose en un lapin. Et son père la voit passer et se dit « Tiens, j'ai une petite dalle.
Oh, » purée.
Et il la mange. Bon. Et je vous garantis, c'est...
horrible.
Et en fait... Oui, non, mais alors... Parce que là, j'ai besoin d'aide, un psychologue.
Oui, maintenant, on commence à te comprendre, en fait.
Non, mais tout s'explique.
Oui,
tout s'explique. Et c'est vraiment un livre qui était vendu pour enfants. D'ailleurs, si Xavier Gauthier m'entend, j'aimerais bien qu'elle se justifie. Pourquoi ? Et donc... Mais c'est pas fini, parce que là, le papa est pris soudain de maux de ventre, de maux de tête, et il y a plein de petites... comment dire, des pustules qui sortent de son corps et naissent plein de petites Anaïs, en fait. Et je vous garantis, c'est un livre pour enfants, je l'ai là, je le promène souvent avec moi, quand on me dit tu es pas cohérente, je dégaine le livre et on me dit, ah pardon, excusez-moi, vous pouvez continuer. Voilà, et donc c'était vraiment un livre pour enfants. Là, voilà, là c'est le lapin qui se venge un peu sur le papa parce qu'il n'était pas très gentil.
Non, mais c'est horrible, en fait.
Voilà. Et c'était un livre pour enfants. Donc, on a dit des livres qui ont marqué nos vies. Ce livre est un marque-la-vie. Voilà.
Mais en même temps, c'est il t'a marqué dans quel sens ?
Mais en fait, c'est ça. C'est que sur le moment, j'ai réalisé très tard. J'ai réalisé il y a quoi, une dizaine d'années, quand je faisais un stage de compte, où j'étais un peu en retard, j'avais rien préparé. Je suis partie de chez moi, ça m'arrive. J'ai pris ce livre en disant, mais je vais raconter ce conte pour enfants. Et quand je suis arrivée au stage, quand je l'ai relu, je dis wow. Mais en fait, moi, avec mes yeux d'enfant, c'était une métamorphose. C'était ben, quand les parents dysfonctionnent un peu, on a le droit de s'évader. Et en fait, pas du tout. Non, c'est super gore. Et, mais j'ai réalisé ça, j'avais 40 piges, quoi. Voilà. Donc c'est, ouais, on a dit les livres qui marquent.
Incroyable.
Les
livres. Oh là là. Voilà. T'es dans le thème.
Oui, oui,
donc je suis dans le thème. Voilà. Mais le prochain sera mieux.
On ne sait pas si on le conseillait. Hein.
Non, je ne sais pas si on doit le... Mais on doit le lire. Par contre,
j'ai
vous avez une séance.
Fêter,
mais bien sûr, tu vas lire. Il y en a pour 10 minutes. Hein. C'est un livre pour enfants. Hein. Donc,
Allez,
il y a
bravo,
quand même
Valérie.
Beaucoup de textes. Hein.
Ouais, c'est ça où je dois le passer.
Ouais. Non, non, mais c'est très bien. Écoute.
Non, c'est pas bien, mais on... j'ai respecté le sujet. Ça marque
c'est
les vies.
Qui marquent les vies ou qui ont donné envie de lire. Hein, c'est ça le thème. Mais moi, je suis un peu embêté parce que j'ai pas beaucoup lu au lycée.
Tu as oublié, peut-être.
Ouais, j'ai pas été emballé par les propositions des profs. Alors, j'ai aimé Barjavel, Le Rouge et le Noir, mais ça m'a pas donné envie d'aller plus loin. J'ai pas eu la chance d'avoir des documentalistes à l'époque qui m'ont donné envie de lire. Peut-être qu'à l'époque, ils en avaient un peu rien à faire, mais je sais pas. Je veux pas faire de généralité.
Tu peux le taper.
Donc, j'ai vraiment commencé à lire avec Kerouac, que j'ai présenté 50 fois, donc je vais pas en reparler.
Steinbeck.
Kerouac qui m'a fait donner envie de lire Steinbeck, donc je vais pas le présenter. Qui m'a fait donner envie de lire Bukowski, donc j'ai déjà présenté, je vais pas le représenter. Qui m'a fait donner envie de lire John Fante, mais je l'ai déjà présenté, donc je vais pas le présenter. Donc, j'ai lu Dan Fante, je vais pas le présenter. Alors je me suis retrouvé embêté, je me suis dit mais j'ai déjà tout présenté de ce que j'aime, je sais pas, j'ai dû avoir 50 wildcards alors que j'en ai jamais eu, mais j'ai dû arnaquer un paquet d'émissions. Et là je me suis dit ah tiens, Knut Thompson, ah non je l'ai déjà présenté la dernière fois, et là je me suis dit ah non, il y a un livre que j'ai pas présenté. Alors j'ai un petit jeu, je pense que Thomas devrait trouver. Compte en commun, John Lennon, Ronald Reagan et Rebecca Schaefer.
Je peux redire, pardon.
Leur année de naissance.
Qu'est-ce qu'ont en commun John Lennon, Ronald Reagan et Rebecca Schaefer? Alors c'est dur, mais avec Lennon, tu peux trouver par rapport à un écrivain. Personne ne sait?
Non, là, pas du tout.
Non.
Alors ils ont tous les trois été pris pour cible par des tueurs qui avaient lu un même ouvrage, L'Attrape-cœur. De Salinger.
Trop bien, bien sûr, L'Attrape-cœur.
Et ouais. Alors, New York, décembre 80, l'Amérique pleure la mort de John Lennon tué par balle par un fan Mark Chapman devant le Dakota Building. Au moment des faits, l'assassin portait sur lui son revolver, un exemplaire de L'Attrape-cœur de Salinger, qui avait annoté les mots suivants. Pour Holden Caulfield, donc ça c'est le personnage principal du livre, de Holden Caulfield, voici mon témoignage faisant référence au héros du roman. Alors, il n'a pas su expliquer pourquoi après, mais bon, bref. Il avait aussi dit... Une grande part de moi est Holden Caulfield, l'autre part, plus petite, doit être le diable. Certainement, vu ce qu'il est arrivé. Ronald Reagan, alors lui, bon, il a échappé à une tentative de meurtre où un certain John Warnock avait ce livre dans sa bibliothèque. Mais il n'avait pas beaucoup de livres apparemment. Et enfin, Rebecca Schaefer, c'est une mannequin et actrice qui a été tuée par Robert John Bardo, l'assassin de sang-froid sur le pas de sa porte, avant de se débarrasser de la copie de L'Attrape-cœur qu'il portait sur lui. Voilà. Alors, par contre, c'est un roman fabuleux, mais c'est voilà, c'est juste pour ma petite devinette.
Et toi, t'as essayé de tuer qui
Et moi, j'ai essayé de tuer personne, heureusement. Alors, L'Attrape-cœur, pourquoi ce livre? Parce que c'est un roman qui est encore étudié dans les universités américaines, voire dans les écoles, parce que ça parle de l'adolescence et du mal-être adolescent. C'est un ouvrage qui, quand il est sorti aux États-Unis, donc il a été écrit dans les années 50, il dépeint un peu l'Amérique des années 50, mais surtout ce malaise des adolescents qui n'avaient plus de repères. Qui en avait marre de tout, on avait marre des gens et se retrouvait pas dans les petites discussions bourgeoises, les petits la guerre est finie, tout est beau. Et ils savaient pas trouver leur place. Et donc il a encore étudié pour ça dans certaines universités. Il a été censuré un moment parce qu'il y a beaucoup de langage grossier. Donc Salinger a inventé ce qu'on appelle l'écriture immédiate. Donc il parle à la première personne et en fait quand on lit ce livre, on ressent vraiment ce que dit l'auteur parce qu'on se retrouve vraiment à sa place. Et du coup, il parle de... Enfin, c'est anti-puritanisme, il balance tout ce qu'il trouve et donc ça a été pendant un moment censuré. Et maintenant, c'est de nouveau étudié, c'est bien sûr un best-seller depuis 1950. Alors c'est le seul roman de cet auteur aussi. Il a écrit des nouvelles qui ont été... édité un peu sans qu'il le veuille pendant qu'il était vivant, un peu après sa mort. Il a vécu reclus à partir de 1960, donc pendant à peu près 40 ans, 50 ans, il n'est jamais ressorti. Il n'écrit qu'un bouquin, qu'un roman, et plus personne n'a entendu parler de lui. Il y a des personnes qui ont voulu écrire son autobiographie qu'il a directement attaqué par rapport à des lettres, des échanges de lettres avec d'autres écrivains. Les livres sont quand même sortis, mais il a toujours attaqué, on n'a jamais plus entendu parler de lui. Donc il est un peu... il s'est retiré dans des monastères bouddhistes, etc. Donc c'est un peu l'époque, il était parti dans complètement autre chose. Ce livre parle donc de notre ami Holden Caulfield, qui a 16 ans, qui est renvoyé de son lycée. Donc au lycée, je pense que c'est les lycées aux États-Unis à 16 ans, à vérifier. Penside Prep, la prestigieuse école préparatoire. Et donc en fait, ce livre, il erre dans Manhattan pendant 3 jours. Et tout ce roman, il erre pendant 3 jours. Et avant de rentrer chez lui, ça finit, on ne sait pas ce qui se passe en fait. Chacun peut s'imaginer ce qui se déroule après. Donc tiens, pour toi, Elodie, la fin inattendue. Alors là, c'est une fin où tu attends quelque chose, il ne se passe rien. Mais par contre, tu peux imaginer...
J'adore comment il spoil.
Tu peux imaginer des choses, c'est intéressant. Oui, mais tout le monde l'a lu, l'attrape-cœur. Rassurez-moi.
Au lycée,
Elodie.
Ça fait tellement longtemps, je ne m'en rappelle plus. Moi.
Ouais, pareil.
Tu vois, je serais incapable de raconter l'histoire.
Relisez-le, c'est extraordinaire. Et ça, c'est voilà, pendant ma période creuse où j'avais plus rien à lire, j'ai dit, je vais quand même le lire. Et c'est, pour tous les adolescents, c'est intéressant de lire ce livre. Donc, il erre pendant 3 jours, il est en rupture totale avec le monde adulte qui perçoit comme fondamentalement hypocrite et bidon. Ce mot revient un peu souvent de manière obsessionnelle. Donc lui, c'est une quête obsessionnelle, celle de l'authenticité dans un monde perçu comme complètement faux. Voilà, c'est exactement ce que vivent les adolescents.
C'est tellement comparable à aujourd'hui, c'est très bizarre.
Mais c'est ce que tout le monde dit, c'est pour ça que c'est encore étudié aujourd'hui, parce qu'ils se disent que ça a été écrit en 1950 et 70 ans après. Mais en fait, ça n'a pas perdu une ride. Alors que c'est l'Amérique des années 50 quand même, tu vois. Et c'est l'Amérique de fête, ça se reconstruit, tout est libre. Et lui, il voit que du faux, il se dit non mais... c'est pas possible après ce qui s'est passé. Non, c'est l'humain est pas comme ça. Et il n'arrive pas à se retrouver dans ce monde. Et c'est pour ça qu'il y a des gens complètement barrés qui prennent ce livre en se disant mais il a raison. Il a raison. Sauf que bon, le problème c'est qu'ils sont barrés. Mais ça, après, c'est pas notre faute. Ça, on n'y peut rien. Ce pauvre Salinger, il peut rien. Il y a un autre personnage, c'est sa sœur Phobie, qui incarne tout ce que Holden souhaite préserver, c'est-à-dire l'innocence, la spontanéité, la capacité d'émerveillement. Et la métaphore de l'attrape-cœur, je vais m'arrêter là, c'est Holden qui se rêve un peu en gardien des enfants au bord d'un précipice dans un champ de seigle. Et donc, il s'imagine rattraper ses enfants avant qu'ils tombent. Et c'est son désir de protéger l'innocence contre la corruption du monde adulte. Donc, je vous invite à le lire, surtout vous, auditeurs qui sont jeunes, et vous, papa et maman, qui vont avoir des adolescents qui en ont, ou dont les chiens mangent des fromages et laissent les papiers dans les litières et qui prouvent qu'il y a des fêtes.
Mais quelle balance!
Voilà.
Popo. Allez, j'enchaîne.
Allez, vas-y.
Alors, pour moi, c'est le premier livre, il est associé. Pour faire cette émission, j'ai pris mon petit carnet pendant des années. J'ai écrit tous les livres que je lisais. Donc, j'ai pris mon petit carnet. Je suis allée au début, 1995. Et j'ai regardé à quel moment ça s'accélère. Et donc, c'est courant 96. Là, il y a une accélération. Et l'accélération, elle correspond à L'Orphelin de Perdide. Et L'Orphelin de Perdide, en fait, c'est plus associé à un souvenir qu'à un livre. En fait, à l'époque, ma sœur doit être à l'université ou je ne sais pas. Bref, elle a sa chambre dans la maison, mais elle est absente toute la semaine. Et moi, je vais fouiller, évidemment. J'ai 10 ans. J'ai ses pompes, j'écoute ses cassettes, ses CD, tout ça. Et là, je tombe sur ce livre qui a l'air... il est dans son jus, il est abîmé, il a l'air d'être lu et relu, il y a son nom écrit dedans, je me dis je vais le piquer. Voilà. Et donc je le pique et je le lis. Et ça me laisse un souvenir incroyable, comme si c'était un livre fabuleux, d'autant plus que mon frère l'a lu aussi, enfin voilà, on l'a tous lu, et donc quand ils en parlent, je suis super fière de dire ouais, moi aussi je l'ai lu. Donc voilà, c'est plus un des souvenirs qui sont liés à ce bouquin qui me marque.
Parce qu'il est complètement nul, sinon.
Alors non, il est assez génial, mais alors à 10 ans, je ne vois pas bien ce que j'ai pu comprendre de ce bouquin, par contre. là, on est sur une édition de 82, c'est Stéphane Vull, donc c'est de la pure SF, c'est de la bonne SF, c'est de la SF géniale, c'est fantastique, hein, c'est vraiment un super bouquin. Il y a une scène au début, et celle-là, je m'en souvenais, incroyable. Un père et son fils courent à travers une prairie, et on comprend qu'ils sont poursuivis par des espèces d'abeilles ou de guêpes. Et le père fait passer la course pour du jeu. Le petit, il a 4-5 ans, il est tout petit. Il lui dit, allez, cours, t'arrêtes pas, je te poursuis, etc. Sauf que le père est en train de mourir. Et au bout d'un moment, il s'écroule, il n'arrive plus à l'avancer. L'enfant ne veut plus jouer, ne veut pas atteindre les arbres qui sont au loin. Et là, le père enregistre un message dans un micro. Claude est seul sur Perdide. Oh, ça me bouleverse rien que d'en parler.
Mais moi aussi.
Claude est seul sur Perdide. Aidez-moi. Il donne le micro à l'enfant et il lui jette des cailloux pour qu'il s'en aille.
Oh, horrible.
Rien. Ah ouais. Ah mais de la relire, je m'en souvenais. Hein, mais de la relire, j'assure. Là, je sens mon visage qui se décompose parce que
j'ai fait ça la dernière fois avec Valérie qui était dans mon bar et j'allais dormir.
J'étais des cailloux.
C'est 3-4 pages. Hein, c'est très court. Mais alors, ça te bouleverse complètement. Et donc c'est voilà. Donc le petit Claudie est seul sur Perdide. Il y a ces guêpes menaçantes à l'extérieur et le grand Max, qui est un grand navigateur, est dans son vaisseau dans l'espace et reçoit le message.
C'est de la science-fiction, donc. Ça.
Voilà, c'est de la science-fiction, ouais. Et donc, Claude, le père du petit Claudie, est son ami. Et il se dit, je vais aller chercher son fils. Et je ne te dis pas la chute, mais tu serais incroyable, fabuleux. Ça commence très fort et ça finit très fort. Et évidemment, tout le contenu, c'est vraiment de la très bonne SF. On est plongé dans l'univers, on est dans le vaisseau avec le grand Max, la relecture était fabuleuse.
Pas du tout cet auteur.
Niourk, un petit garçon perdu
dans le polaire, dans le froid polaire.
Stéphane Hull. Oui, dans le froid polaire, il tombe. Il y a une scène géniale. Il tombe sur un vieux logo, c'est un vieux dieu des humains et c'est le logo de l'OM. J'adore cette chaîne. Il a des idées incroyables. S'il le trouve partout, il se dit c'est forcément un dieu.
Ouais. Ok, merci beaucoup.
Donc à lire parce que voilà, c'est fabuleux.
Quel âge
si
du coup
encore...
Parce que t'étais un peu jeune.
Ouais, mais ça m'a
jeune.
Marqué quand même. Donc après, pour vraiment être à l'aise dedans, 12-13 ans, je pense.
12-13 ans.
Après, est-ce que c'est encore édité? Oui, vu l'auteur, je pense. Là, c'est 82. Alors c'est rigolo, il y a même une faute d'orthographe. C'était des... Tu sais, ces éditions de SF complètement pourries, l'orphelin avec un H en...
Ouh, joli.
Ah ouais, hein. Ouais. Non, j'ai une édition collector, là, je vous assure.
Ah, excellent, ça.
Mais c'était génial à relire parce que ça m'a donné des frissons de souvenirs. Et puis alors, cette scène, incroyable.
Oui. Il n'y a pas des photos à l'intérieur, c'est pas illustré.
Non, je ne me suis pas arrêtée à la page 38.
Ah, purée, je te jure.
Merci. Fabuleux, à lire.
Allez, merci. Thomas.
Moi, j'ai un peu galéré parce que je pense, contrairement à la plupart d'entre vous, mais si je me reconnais un peu dans ce que tu disais, que je n'ai pas été un grand lecteur jeune.
Et oui.
C'est vrai que c'est un peu cliché, mais c'était foot, musique, où je regardais beaucoup de films, mais vraiment, pour moi, lire un livre sans images, je trouvais ça pas possible. Donc, jusqu'au collège, j'ai regardé des résumés sur Internet la veille pour le lendemain.
Mais parce que nous, on n'avait pas Internet pour lire des résumés à l'époque.
Mais moi je ne lisais pas non plus. Hein, j'avais pas Internet.
Mais c'est nous.
C'était loin.
Je m'arrangeais, bref. Non, j'ai vraiment... Et du coup, je me suis dit, quand même, c'est quel est le premier livre qui m'a un peu fait déclencher le truc où j'arrive à lire un livre sans images et qui, en fait, me plonge dedans totalement. Même s'il y avait eu 2-3 tentatives, je crois qu'en 5e, j'ai dû lire un livre sur le foot.
Joël Bat, gardien de ma vie.
Ça devait être celui-là. Il est de retour.
C'est pas celui-là.
Dominique Rocheteau, L'Ange Vert.
Non, c'était Racaille Football après. Club Copier. De Daniel Riolo. Voilà.
Racaille Football Club, là aussi, le titre est quand même top. Hein.
Exactement. Et du coup, je vais vous parler de... Mais du coup, c'est grâce à l'école, parce que c'était... une œuvre qu'on devait lire en cours de français. Et j'étais parti en échange en Allemagne avec, on avait des correspondants. Et à un moment, je me retrouve dans la classe. Et avant de partir, je me dis quand même, je vais prendre un livre au cas où, si à un moment, je m'ennuie. Et là, le cours commence. Je vois que j'ai devant moi quelques heures. Je me dis, ça sert à rien, je vais lire le livre. Et là, première fois de ma vie, je ne peux plus m'arrêter de lire ce livre. Et c'était « Incendie » de Wajdi Mouawad.
Génial.
La pièce de théâtre. J'étais en seconde.
Ah.
Ouais.
Mais moi, c'est pareil. Hein. Moi, c'est après le lycée. Hein. C'est début de fac que j'ai commencé de lire. Avant, impossible.
Et donc, effectivement, c'était une pièce de théâtre qu'on devait étudier en cours. Et voilà, pour les vacances, en tout cas pour cette semaine, je me suis dit, je vais l'apprendre et je verrai si je le lis ou pas. Mais sans penser le lire. Et en fait, effectivement, dès les premières pages, je me mets dedans et j'ai adoré. Donc, c'est un livre, c'est difficile de le raconter sans spoiler, mais Ça raconte l'histoire donc de jumeaux, Jeanne et Simon, qui, à la mort de leur mère Nawal, reçoivent un testament étrange. Ils doivent retrouver leur père qu'ils croyaient mort et un frère dont ils ignoraient l'existence quelque part au Moyen-Orient. Donc toute l'histoire, ça va être d'essayer de retrouver l'histoire familiale de cette mère qui avait un début d'histoire justement au Moyen-Orient. Alors si ça parle dans un cadre de guerre, c'est assez violent, mais ça s'explique aussi parce que l'auteur Wajdi Mouawad, il est libano-canadien, il est né au Liban et il a connu la guerre civile et il est parti après en France puis au Canada. On ne sait pas vraiment, peut-être de mémoire je ne sais plus, mais on ne sait plus vraiment si ça parle littéralement du Liban, mais voilà, ça se passe dans un cadre de guerre au Moyen-Orient. Donc là, c'est ce qu'ils connaissaient. Et donc ça parle aussi de transmission, d'héritage et de famille. C'est très compliqué d'expliquer, mais voilà, je voulais en parler parce que c'est la première fois où effectivement, on rentre dans un livre, on s'imagine tout, on a les sons, on est à fond. Il y a aussi un twist à la fin assez incroyable. J'ai vu après le film, il y a un film de Denis Villeneuve, le réalisateur qui a fait Dune, qui a fait après la version de Blade Runner. Il a fait une version de ce film qui est très bien d'ailleurs.
C'est une pièce de théâtre, tu disais.
C'est une pièce de théâtre aussi.
Oui, en plus,
de
c'est pas évident quand on n'est pas lecteur, une pièce de théâtre de l'aborder.
C'est chaud,
Bah, je sais pas, peut-être le côté un peu de dialogue justement marchait. Moi qui aimais les films, je regardais beaucoup de films quand même à l'époque, j'ai un peu ressenti ce truc-là de m'imaginer le film de la pièce. Mais voilà, c'est un super souvenir. J'ai rien lu d'autre de cet auteur, alors que j'ai entendu qu'il y avait des trucs cool aussi de sa part.
Ah, bah t'as Anima, qui est absolument incroyable de lui. Presque, je pourrais dire, c'est un des livres qui a marqué ma vie, qui est à Marc Lévy, parce que c'est j'y pense encore. C'est un homme qui perd son épouse et en fait, il va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, mais tout est raconté à travers les animaux qu'il croise. Ça va du moustique éclaté sur son pare-brise, enfin des choses, mais c'est trash, c'est violent, mais beau.
Ouais. Intéressant cet auteur.
Ah non, mais il est à suivre. Enfin, il est vraiment. Enfin, à lire plutôt qu'à suivre.
J'ai vu que maintenant, il était directeur d'un théâtre sur Paris, je ne sais plus lequel, mais voilà, il est sur Paris, toujours cet auteur. Mais voilà, je voulais en parler parce que c'était vraiment la première fois que j'ai lu en dehors des BD, en dehors de ce genre de choses, mais lire un livre de fiction où j'étais à fond dedans et je n'ai pas pu m'arrêter. Je pense que je l'ai lu d'une traite ou quasiment. C'est vrai qu'il se lit assez rapidement. Mais je ne pouvais pas m'arrêter de lire.
Mais je crois qu'il est encore étudié, parce que on m'en commande souvent, donc je pense qu'il est, il est encore lu au lycée. C'est pour ça que je croyais que tu racontais une histoire de quand tu étais petit au collège. Oh.
Non, j'étais au lycée,
la semaine dernière.
Ouais. Oui, c'est ça.
Ouais. Mais merci, Thomas, merci. On est totalement dans le thème. Laurie.
Ouais, mais du coup, moi, ça va être très rapide. C'est pas un livre en particulier, c'est plus un auteur. Alors, je vais être très cliché, un peu comme Marc Lévy. Ça va être Guillaume Musso. C'est mon amour d'amour d'auteur, très clairement.
Popo s'emballe. Alors, elle n'avait pas le micro, donc je le refais.
Non, quand j'étais plus jeune, je lisais tout ce qui est Bibliothèque Rose, Bibliothèque Verte, mais ça ne m'a jamais réellement marqué. Et c'est ma grande sœur qui est arrivée un jour... je sais plus d'où, qui m'a dit, t'as acheté un livre. Je ne lisais pas à cette époque-là, mais vraiment, à part quelques livres, vraiment, la lecture, c'était très loin pour moi. Ça devait être en quatrième ou en troisième. Et en fait, je crois que c'était Central Park de Guillaume Musso. Je l'ai lu en une semaine et j'ai juste tombé en amour pour cet auteur. Et une semaine après, j'avais tous les livres qui existaient en poche de lui, qui étaient sortis dans ma bibliothèque. Alors, je ne les ai pas tous lus parce que je veux les découvrir petit à petit. Donc,
oui, bon, il en écrit encore en plus.
Ouais,
donc,
voilà. Non, mais j'ai le temps encore. Mais il y a une période où je n'ai pas lu. En fait, j'ai arrêté après la troisième rentrée au lycée. Je n'avais pas plus le temps, mais voilà. Et on va dire que j'en ai encore à découvrir. Mais Guillaume Musso, bon après... Les histoires sont toujours un peu les mêmes. Il y a toujours une histoire d'amour, une enquête un peu policière ou quoi. Mais vraiment, Guillaume Musso, si tu m'entends, je t'aime.
Carrément.
Pardon, mon chéri. Non, mais vraiment...
On ne le dira pas tout à l'heure.
Non, mais je ne peux pas expliquer l'amour.
Non, mais c'est bien, on n'a jamais parlé de Guillaume Musso dans cette émission, alors que jamais. C'est un des plus grands vendeurs et qu'il faut respecter ça. Je dis ça, mais j'en ai jamais lu, donc je sais pas.
J'en ai un ou deux là.
Et bah alors, il faut lire Central Park ou. Bien sûr, j'ai perdu le titre.
Ok, ben on le dira après la pause musicale, comme ça tu as le temps de rechercher. Allez, ben on a fait un tour et ça fait 35 minutes d'émission, donc c'est parfait, on va pouvoir faire une pause musicale et on revient de suite après. Allez, voilà pour cette pause musicale, c'est reparti. Marlène.
J'ai adoré. Hein.
Ouais, c'était pas mal.
Après, je croyais que tu mettais pas Indochine à la radio.
Alors, c'était un... c'était des... Ouais, je sais, mais j'ai craqué parce que c'était des fleurs pour Salinger et c'est un peu le livre que j'ai présenté, alors j'étais obligé de le mettre.
Parfait.
Merci Valérie. Marlène, qu'est-ce que tu veux nous présenter?
Je me remets là.
Ouais, remets-toi.
Après, on saura peut-être qu'on peut avoir le titre de l'autre livre de.
Ah oui, ah oui. Attends, Laurie.
Alors. C'était La fille de papier.
La fille de papier.
De Marc Lévy, donc.
Ouais,
de
très
Guillaume
beau
Musso.
Titre.
Je plaisante.
De Guillaume Musso.
On ne confond pas les deux quand même.
Non, 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 c'est pas le même blaze. Ils n'ont pas vécu les mêmes choses. Oui. Alors, Marlène, non, mais... vas-y.
Ça va être dur là d'enchaîner. En plus, c'est pas facile. Bon, bref. Alors, le prochain livre Marc Lévy pour moi, c'est La vie en gros de Michaël Olivier. Alors,
Je croyais que c'était Carlos.
Non.
Ah, pardon.
À plusieurs titres.
C'est de la grossophobie, ça.
Pardon, je suis voilà. Désolée, je m'excuse.
Bah, justement,
je vais te manger.
Voilà.
Ah ben ça, c'est de la grossophobie culinaire.
Oui, mais moi, j'ai
du
droit.
Cannibalisme.
Hein, c'est du cannibalisme grossophobie.
On en parle
culinaire.
Après. Oh, c'est belle. Ouais. Bon, mais justement, grossophobie, allons-y. Du coup, alors, jusqu'à ce livre-là, on va dire que tout ce qui concernait la jeunesse, en tant que future bibliothécaire, puisque je faisais mes études, Et je suis allée sur un salon littéraire et j'ai rencontré cet auteur et j'ai découvert ce livre sur le salon. Et en fait, jusque-là, j'étais assez innocente, on va dire. Et pour moi, tout ce qui concernait justement l'obésité, les jeunes en obésité et les différences, je n'avais jamais lu. Et j'avais plutôt l'impression que tout ce qui était la jeunesse, c'était les jolis albums, même si c'est un peu... Il y a des messages dedans, mais c'était un peu détourné. Là, c'est un des premiers auteurs qui s'est intéressé vraiment aux jeunes, à ce qu'ils pouvaient penser dans les années collège, et qui a commencé à parler d'un peu tout ce qui était les différences. Alors, il y a aussi le côté... L'éditeur y est pour beaucoup, puisque c'est Thierry Magnier. Et Thierry Magnier, c'est un des premiers qui a justement commencé toutes les collections spéciales collège, avec toutes les thématiques pour les jeunes, et qui résonnent beaucoup, sur les premiers amours, les différences, tous ces trucs-là, le harcèlement, je suis nulle à l'école, et pourquoi, et pourquoi pas les autres, plein de thématiques diverses, et cette collection s'est beaucoup depuis étoffée. À l'époque, c'était donc Michael Olivier qui était un des premiers auteurs, on va dire, mis en avant, et Gudule avec L'amour en chaussettes. Voilà, c'était cette époque-là. Et là, donc celui-là, c'est quand même donc le premier qui parle du coup de l'obésité très clairement, du rejet qu'on peut ressentir. Encore plus violent avec les filles, elles veulent pas de toi parce que tu as beaucoup de poids. Donc voilà.
C'est quelle époque à peu près que c'est sorti? Tu le sais ou pas du tout?
J'étais fin des années 90.
Parce qu'autant aujourd'hui on en parle, on dit voilà, mais à l'époque.
Et c'est ça, c'est pour ça que ça m'a marqué, oui, parce que c'était vraiment quelque chose de complètement différent. Donc ça m'a marqué à titre pro pour mon futur métier, etc. Et comme j'étais dans un salon en échangeant avec l'auteur, c'était vraiment très intéressant. Et c'est aussi quelque chose où, au final, alors là c'est hyper personnel, mais du coup j'ai retrouvé beaucoup de choses. Et alors, même si j'étais déjà jeune adulte, ça parlait énormément, la façon dont il écrivait, etc. Donc, vraiment, ça résonnait déjà un petit peu et je me suis dit, ah, c'est bien, parce que là, pour le coup, les ados pourront y aller et pourront s'y reconnaître. Voilà. Donc voilà, je voulais parler de celui-là parce que pour moi, ça a été un tournant dans, justement...
À partir de quel âge, du coup ?
Celui-là, en fait, vraiment, collège, 12 ans. 12 ans. Ouais, 12 ans. Alors après, voilà, c'est maintenant, ça commence à être un des titres anciens de cette collection. Il y a beaucoup plus... maintenant, c'est plus
moderne.
C'est plus moderne. Ils ont d'autres thématiques qui correspondent plus à la réalité d'aujourd'hui. Mais voilà.
À l'époque, c'est un ovni.
C'est ça. Ouais, c'est super. Ça. Donc, je voulais en parler parce que je me suis dit, est-ce que je prends Gudule? Mais Gudule, c'est pareil, c'était une autrice qui était très connue aussi. Voilà, c'est des premiers amours, tout ça. Voilà, mais je ça fait partie d'un qui a marqué, voilà.
Voilà, en plus rencontrer dans un salon, c'est intéressant. Ouais,
ouais, complètement. Mmh. Voilà.
Merci Marlène. Allez, deuxième livre d'Élodie. Pourquoi tu ris quand
c'est à toi, je ris à l'avance parce que je sais ce que je présente.
Et moi, je rebondirai.
J'ai toujours eu un petit peu honte de l'avoir lu et surtout de l'avoir aimé en fait ce livre. Je vous l'ai pas dit la semaine dernière.
Si.
Bon. Alors, on est parti. Angélique, Marquise des Anges.
Oh ben non, mais attends, c'est fabuleux.
Alors, c'était fabuleux. Alors, moi, voilà.
Sauf qu'elle avait 8 ans.
Non, pas du tout. Laurie parlait tout à l'heure des bibliothèques roses, bibliothèques vertes. On a tous été bercés par ça. Moi, c'est pareil. C'est un des premiers livres que j'ai pas soit lu à l'issue de ces bibliothèques, soit que j'étais obligée de lire à l'école. Parce que c'est ça. Et c'est un des premiers... livre que j'ai piqué dans la bibliothèque de ma mère et j'ai piqué ce premier tome vraiment sans conviction et
oui,
j'ai
ma
été
princesse.
Embarquée dans cette saga.
Continue.
Mais c'était fou. Non mais c'était fou et surtout arrête hein. Et surtout là où c'était fou, c'est que c'est là où j'ai vécu mon premier émoi littéraire amoureux, où j'ai senti le rouge qui monte aux joues.
Oh ouais, c'est bien.
Alors,
ça.
Alors, voilà, c'est vrai. Non, c'est mais on est au moment où Angélique, on l'a mariée un peu de force à Geoffrey de Peyrac, ouais, au comte de Toulouse.
Moi, j'adorais les films. Hein.
Et,
petit,
oui,
j'adorais
les films.
Les films,
on nous en a tellement pas ressorti comme tous les ans, là, avec les Sissi impératrices. Là, on n'en pouvait plus de tous ces Angéliques. Mais les livres sont extraordinaires. C'est vraiment une aventure. On est dans le monde des pirates. On est avec le rescator. Non, mais c'est génial. Ah, merci, Pauline.
Pauline, ça aurait pu. Je ressens les mois, là, que vous êtes en train d'en parler.
Et donc, j'ai cette scène où Geoffrey de Peyrac regarde sa femme qu'il ne peut pas toucher parce qu'elle ne veut pas de lui. Au début, elle le repousse. Et il regarde dans son décolleté. Et elle sent le regard dans le décolleté. Alors, c'est vraiment tout en suggestion. On n'est pas du tout dans des trucs... voilà, ça se lit vraiment au début de l'adolescence. C'est du tout public. Mais vraiment, c'est la première fois que j'ai senti le rouge qui est monté aux joues. Et vraiment, c'est ce qui m'a amenée après à lire des livres. Je me suis... Non, mais c'est vrai. Après, je me
elle
suis mise à lire...
Elle a tout le rayon érotique de la MDL.
Voilà. les rayons New Romance. Voilà, mais ça m'a réconciliée. Ça m'a... Enfin, vraiment, maintenant, quand je lis ce genre d'ouvrage, je ne suis plus du tout arrêtée. J'ai plus d'idées reçues parce que je sais ce que peut provoquer des lectures auxquelles on ne s'attend pas et qui provoquent une émotion et un émoi, voilà, surtout aux âges où on n'a pas encore vécu de vraies choses. Et donc, du coup, voilà, c'est ce livre-là qui m'a marquée. Donc, merci Angélique.
Allez, merci Elodie. Merci. Valérie, ton deuxième livre, si tu en as. Hein.
Oui.
Mais tu peux ne pas en avoir, moi j'en ai qu'un. Tu peux avoir qu'un et on peut passer directement à Pauline.
J'avais presque envie, mais je me dis, on pourrait faire un tour de table pour savoir quel est le premier livre qui a provoqué un petit émoi littéraire chez tout le monde.
Ben en fait, c'est le thème de cette émission.
Ben alors,
un émoi...
Un émoi et moi, quoi.
Émoi et moi.
Émoi et moi, ouais. Quoi.
Émoi et moi.
C'est, mais là, rapidement, là, tac, tac, tac,
allez,
on
tac,
répond.
Tac, tac.
Serpieri, avec les Drounas.
Ok. Sur la route Kerouac.
Non, mais un émoi...
Ah
olé,
non,
olé.
Moi, olé, olé.
Olé, olé. Bah oui, sinon c'est pas...
Je le dirai jamais.
Ah mais si, t'as pas
attends,
le choix, on est parti là.
Attends, tu te
c'est Vanille Fraise.
Non, moi j'ai dit Serpieri.
Allez, dis.
Toi, tu dis qui, Ludo ?
Non, mais moi j'ai jamais eu des mois, j'ai lu que des auteurs alcooliques.
T'es trop sérieux ?
Non.
Bah, excuse-moi, Bogowski,
si,
c'est un
Fante.
Woman.
Oui, Fante, ouais, Banzini. Voilà. Oui. Demande à la poussière, John Fante.
Ok. Le journal de Laura Palmer, dont j'ai failli parler aujourd'hui.
Le guide du zizi sexuel.
Ok, de PEF. Non, mais il est jeune.
Ça marche. Hein.
Mais ça marche.
Alors moi, mon dernier souvenir, c'est le tome 2 des Campus Drivers.
Ok, ça se tient.
Ok, Marlène.
C'est très générationnel.
C'est... Putain, oui, et là, c'est horrible. C'est pour un truc qu'on m'avait offert,
pas,
en fait, j'ai atroce. Ça s'appelle...
Alors, on va dire que c'est Elodie qui parle pour pas que les gens se
reconnaissent.
C'est
Elodie qui parle. C'est
moi ça
qui parle.
S'appelle... Ah, mais... Plaisir d'offrir, joie de recevoir, d'Anna Rosen.
Ah, mais oui, mais...
Oh, mais tiens, je vais le lire, ça va être mon livre des vacances
pour
que
envie,
je présente
hein.
En septembre, ça. Tiens, bim.
C'est atroce.
Enregistré. Ça, c'est mon prochain livre présenté
tu vois, là,
en septembre.
C'est toi qui as le rouge qui mange le joue alors que t'es même pas devant le livre. Ouais.
Bon, mais on a
non,
fait
un,
le tour
un livre
de table.
Qui, moi, qui m'ont marqué, mais qui est peut-être un peu loin, c'était de René Fallet. Je ne sais pas si ça vous parle. René Fallet, accessoirement, il a écrit La soupe aux choux, il a écrit quelques livres un peu bizarres. Ah, oui. Mais attention, il a écrit un livre jeunesse. Alors, un truc très arbi, très étrange aussi, hein, mais j'ai eu droit qu'à ça quand j'étais petite, les invendus des foires. Et ça s'appelait Bulle et l'enfant. Alors, de mémoire, c'est Bulle ou l'enfant de l'océan, ou Bulle et l'enfant de l'océan.
Que tu pourrais lire chez moi.
C'est vrai.
Oui,
chez toi,
oui,
dans mon
CD,
établissement.
Chez toi,
oui. Ah, génial.
Dis-moi s'il faut que je le garde, parce que bon, si
alors,
on est dans le.
Avec du recul, je me dis, est-ce qu'on ne traitait pas de sujets un peu bizarres dedans, de l'antisémitisme, par exemple, mais je vois le mal partout en ce moment. Mais c'était Bulle, c'était un coquillage marin. Tu me reprends si je me trompe, Pauline.
Je ne pourrais pas t'en parler.
Et en fait, son rêve, lui, il était dans l'océan, donc toujours pareil, hein, fille de la montagne, déjà l'océan, ouh. C'est. Et en fait, il se fait à un moment donné, il a envie de découvrir le monde, il a envie de découvrir les humains, et il se retrouve pêché. Et là, il va vivre plein d'aventures. Il va aller avec un pirate, avec plein de choses. Mais la plus grosse aventure, c'est quand il va arriver à Paimpol. Paimpol.
Mon endroit préféré dans le monde.
Non, mais c'est ça. Et c'est juste improbable. Mais c'est. Ben oui, mais alors, faut relativiser le truc. Hein, quand t'es né entre Albi et Rodez.
Pas Paimpol.
Paimpol, c'est waouh. Et c'était hyper exotique. Et en fait, ce monde qui découvre ce petit Bulle, ce petit crustacé, il était horrible. Ce monde des humains était juste assez orwellien. mais juste. Et c'était, voilà, moi, ça m'avait marqué parce que déjà, c'était, j'étais pas habituée, je lisais que les choses très terre à terre qu'il y avait chez mes parents, donc les romans de terroir ou le Joël Batz, Gardien de ma vie. Et donc, que des vraies histoires. Et là, c'était de l'anthropomorphie. Et voilà, ça m'a marqué. On a le droit de le dire, puisqu'on est sur les livres des Marc Lévy, on a dit. Donc,
c'est ça.
Voilà, non, ça m'a beaucoup marqué et je suis étonnée que tu l'aies encore dans ton...
Eh bien, du coup, je pense que je vais le lire.
Je pense que je vais le relire dès que je rentrerai chez moi. Mmh. Tu me diras si c'est toujours book-friendly. Ouais. Mmh.
Merci Valérie, mais elle t'a donné le relais. Hein,
j'enchaîne.
Il faut que ça ait un lien. Il faut que c'est un lien.
C'est un peu dur à trouver le lien. Alors attention, parce qu'il faut que je vous montre la couverture de livres qui m'ont marqué. Donc je n'ai pas
les
crosses parce qu'ils sont 12. Mais en fait, c'est pourquoi j'ai choisi ces livres, parce que c'est les seuls livres pour lesquels, donc c'est en plusieurs tomes, 12 tomes en l'occurrence, vous comprendrez très bientôt pourquoi.
J'ai vu le titre du deuxième et je crois comprendre.
Et ben, en fait, c'est le seul bouquin où je suis allée devant des librairies le matin à 9h30 pour attendre l'ouverture pour aller chercher mon livre, et ça pendant 12 mois.
Ils sont forts.
Ouais. Ah ouais, mais c'était dingue. C'était dingue parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, donc 1999, l'an 2000 arrive et tout le monde prévoit des trucs de malade. Le bug de l'an 2000, la fin du monde, bref. Et bien, Compte à rebours de Daniel Parker. Voilà, Daniel Parker, c'est le début, c'est un an vers l'an 2000, et que va-t-il se passer en l'an 2000? Et bien dans Compte à rebours, donc janvier, février, mars, et je vous laisse deviner la suite, on se retrouve dans un monde, tous les adultes et tous les enfants ont fondu, mais alors littéralement fondu, c'est-à-dire qu'ils sont devenus tout boursouflés, ils se sont liquéfiés, enfin c'était un truc atroce, et il ne reste incroyable que les ados. Non mais, je vous jure.
À la galère.
Mais moi, je rêvais de vivre cet apocalypse. Mais vraiment, c'était un monde où il ne reste que des ados, donc tout le monde s'alcoolise là-dedans,
les Bretonnes,
tous les interdits. C'est incroyable. Bon, évidemment, ne s'alcoolise pas pendant 12 mois. Au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'il y a peut-être quand même quelque chose qui se passe. Bref, on suit donc tous ces adolescents qui sont les seuls survivants de l'univers. Janvier, éruption solaire, février, je ne sais plus ce qui se passe, mais petit à petit, donc les moins de 12 ans et les plus de 21 ans disparaissent tous. Ouais, dingue. C'est...
Chaque mois son cataclysme, en fait, c'est ça?
Alors ouais, en fait, voilà. Et on suit plein de personnages un peu partout dans le monde qui partent à la recherche de l'élu pour empêcher Lilith, le démon, de détruire totalement le monde. Et en fait, c'était incroyable parce que je pense que ça fait partie des premiers livres... on n'était peut-être pas très nombreux devant les librairies, mais, dont on attendait la suite, et pendant si longtemps, ça a duré un an. Enfin, alors en plus, moi j'avais une correspondance avec une cousine qui les lisait aussi, donc on s'échangeait, ah ouais, tu crois qu'il va se passer quoi le mois prochain? Enfin, c'était dingue.
Correspondance en lettres.
Ouais. oui, par courrier, ouais, donc en plus...
Et donc c'était, ils l'ont sorti toute l'année
99. Donc l'idée éditoriale est quand même assez géniale parce que ouais, c'était extra et bon bah évidemment j'avais envie d'être toutes les filles, j'étais amoureuse de tous les garçons de l'histoire, enfin vraiment j'avais donc 99, j'ai 13 ans, c'est le pur produit pour ados, ils retrouveraient un moyen de faire un truc comme ça aujourd'hui, ce serait du délire, je pense.
Comment il s'appelle, McDowell l'a fait un petit peu avec ses Blackwater. Moi, j'étais exactement comme toi, sauf que j'avais un peu plus que 13 ans.
Et puis, c'était pas la même qualité littéraire. Hein.
Je n'ai pas lu les tiens.
Remettons les choses au clair.
Mais moi, il m'a rendu dingo avec ses Blackwater.
C'est pas incroyable. J'ai relu pour l'émission hier soir.
C'est pas
foufou. Voilà, en une heure et demie. C'est pas foufou, ceci dit.
Mais il faut se mettre
j'ai
dans les conditions.
J'ai pas vraiment de souvenir de ce qui se passe par la suite et j'ai une petite curiosité. Je ne pense pas que je vais continuer à la lecture.
Mais en décembre,
mais ça a éveillé un peu ma curiosité quand même.
Non, mais c'est hyper malin.
Et
Monsieur Toussaint Louverture, quand ils ont publié le Backwater, où sur la première page, ils disaient, voilà, le tome 1, telle date, tome 2 dans 15 jours, tome 3 dans 15 jours. Moi, j'ai fait des kilomètres et des kilomètres.
Pour aller chercher
et être le vendredi, 2 jours de sortie, devant une librairie pour le récupérer.
Et c'est
pas vieux, hein, c'était...
C'est incroyable, les livres qui arrivent à te créer cet effet-là. C'est-à-dire que tu es en attente, tu te dis, je n'en peux plus. Un mois, c'est très long.
Ouais.
Donc non, vraiment, c'était un... quand j'ai revu ça dans mon carnet, je me suis dit, mais oui, c'était incroyable cette année-là.
Mais avec les réseaux sociaux, je me demande si ça sera encore possible. Tu disais...
Est-ce oui, que ça gâcherait pas un peu
les
tout
gens,
ce...
ils balancent ouais, direct les gens,
non, même, oui. Est-ce que même...
avec Internet,
ouais. Les jeunes, il y a tellement de concurrence que, oui. que vis-à-vis du livre, en fait, même s'il y avait une super idée avec, comme tu dis, un truc tous les mois... Est-ce que ça marcherait?
C'est parce qu'ils font sur Wattpad raison. Ou ils sortent des...
Non, c'est que tu votes sur Wattpad.
Laurie, toi qui connais Wattpad...
Alors Wattpad, c'est...
Pareil, il y a des...
Donc l'auteur, l'autrice, celui qui publie peut décider de publier tout d'un coup, alors chapitre par chapitre.
Voilà, c'est ça.
Il y a un peu ce côté où on attend la suite et on harcèle un peu la personne qui écrit pour qu'il publie. Mais,
oui, mais ouais, tu votes aussi pour...
Oui, on peut mettre des commentaires pour dire ça, ça serait bien de faire ça ou quoi.
Ouais.
Mmh. Mais je pense qu'en livre, c'est l'autrice que je présentais, elle a fait les Calendar Girls, par exemple, où il y a
un peu la même idée
tous les mois. Bon, c'est pas du tout le même registre, mais c'est la même idée de publier. Alors, je sais pas après s'ils ont été publiés mois par mois ou si ça a vraiment suivi ou pas du tout.
Voilà. On m'envoie des messages aussi. À quand le prochain livre sur le zinc bimensuel?
Bien sûr.
Ils font la queue derrière.
Vous attendez.
Fut un temps pas si lointain, on en faisait une tous les 15 jours.
Oui,
hein, je dis ça, je dirais.
Un peu plus maintenant.
C'était l'époque où tu préparais les émissions et utilisais les livres, non?
Non, toujours pas, pas plus.
Bien joué. Allez Thomas, merci Pauline. Thomas, tu as un second livre ou pas?
J'ai un second livre en plus que j'ai sur moi, qui depuis que je l'ai acheté est toujours dans ma bibliothèque. C'est, je remonte un peu le niveau. Éloge de l'amour de Alain Badiou.
Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça?
Non,
c'est hyper bien.
C'est pas sympa pour Anne et Serge Gollon qui t'en voudront. Hein.
Parce que t'es en face de moi, c'est juste pour ça.
Parce qu'il y a amour dans le titre.
Oh, cœur avec les doigts
d'Angélique.
Ouais, ben oui. C'est pour ça. Non, non, mais parce que bah, c'était justement, c'est un peu la même période où j'avais débloqué le fait que j'arrivais à lire des livres sans images. Je reste un peu là-dessus, mais
oui,
au lycée.
C'est ça.
J'ai lu ce livre parce que j'étais tombé d'abord sur une vidéo, sur une interview vidéo sur YouTube, la chaîne Click de Mouloud Achour, d'Alain Badiou, justement, qui parlait de l'amour. Et je suis retombé, donc c'est une vidéo qui date de début 2016, donc à mon avis j'ai dû la voir dans ces eaux-là, tout début 2016, et j'ai tellement aimé l'interview que je me suis dit, s'il y a un livre qui parle de ça, parce que l'interview devait durer de la 20-25 minutes, mais c'était pas assez, et donc je suis allé me prendre ça, et sans savoir, en fait, c'était un peu le premier livre de philosophie que j'ai lu, parce que donc c'est le journaliste Nicolas Truon qui interroge Alain Badiou sur ses pensées, ses réflexions sur l'amour. Il l'a fait lors d'un festival d'Avignon où ils ont fait voilà comme ça c'est un peu une interview retranscrite mais réécrite un peu voilà pour en faire un essai. Oui, donc c'est 2009, c'est la collection Chants Essais de Flammarion. Et j'ai adoré, en fait, j'avais adoré ce qu'il disait dans le... À l'époque, je m'interrogeais un peu sur c'est quoi l'amour. Vous savez, on est au lycée, on ne sait pas trop, on n'est jamais tombé amoureux, on se dit est-ce que ça va arriver, comment, pourquoi. Je ne me retrouvais pas dans les comédies romantiques. Tu dis quoi?
Ça picote à l'adolescence.
Par exemple.
Certains prennent Angélique et d'autres prennent Éloge.
Exactement.
De l'amour.
Ah.
Et non, en fait, j'ai trouvé ultra... pertinent, c'est drôle, c'est plein de choses. Donc j'ai appris après plus tard que, mais aussi même dans mes premières convictions politiques, voilà, Alain Badiou, c'est un penseur plutôt marxiste, plutôt il se revendique marxiste. Donc là, donc c'est des réflexions sur l'amour, il critique une société moderne, individualiste, capitaliste, qui voudrait un peu tordre l'amour. Il parle donc de la rencontre, de l'importance du hasard et de la fidélité comme acte révolutionnaire. Avec du recul, je me dis, j'ai peut-être même lu trop tôt, mais en fait, ça m'a aussi, je pense, forgé sur ma manière de voir les choses. Et pareil, je l'ai lu d'une traite, c'est un tout petit livre, ça fait partie d'une suite. Après, je me suis dit, ah, c'est cool, je crois qu'il a fait l'éloge. Moi, j'ai lu l'éloge de la politique, où il critique Sarkozy dedans, mais pareil, je l'ai lu à 16-17 ans. Donc,
pourquoi ?
J'avais moins aimé. Et il y a un autre éloge encore, je ne montre pas, c'est l'éloge de l'art. Enfin, il a fait une série d'éloges comme ça sur des sujets qui lui tiennent à cœur. Et j'avais beaucoup aimé, voilà. C'est vrai que j'aurais pu présenter autre chose, mais celui-là m'avait un peu marqué. Je l'ai toujours sur moi, je ne sais pas pourquoi. Je le prête souvent à des copains. Quand je l'ai lu, c'est la première fois aussi que je me suis mis à,
oh là
à
là.
Le... Stabilité, je me suis mis à faire ça à cette époque-là. Et je le
oh
fais
là là, Valérie n'est pas d'accord.
Non, il fait ce qu'il veut, il est grand maintenant.
Il y a du débat.
Et non, il faut que ça vive.
Ça veut dire qu'on se l'approprie pour toute la vie, le livre.
Je pense que c'est le premier livre où j'ai fait ça et je le fais toujours.
Ok.
Pas quand c'est des livres, voilà.
Sacrilège.
Merci Thomas.
Mais assume, tu fais ce que tu veux.
Laurie, est-ce que tu stabilotes des livres des
non.
fois
non. non. Tu mets pas des petits marques, des trucs
alors,
de couleurs à la fin.
Laurie, elle fait que les titres.
Non, sur non, la déjà couverture. Quand à la médiathèque on me demande de mettre un coup de tampon et écrire le chiffre, j'ai cru que j'allais pleurer la première
fois. Ah
non,
mais ça c'est pas possible.
Elles te font pas faire ça quand même. C'est...
Malheureusement.
Aïe, aïe, aïe.
Mais bon, c'est... ça fait partie du métier et j'aime ça quand même. Mais non, non, mes livres c'est mes bébés quoi. Mais du coup, moi pour présenter mon livre, alors c'était au début du BTS, j'ai voulu me remettre à lire et mon charmant copain que j'aime de tout mon cœur.
Mais tu préfères Marc Lévy ? Non, Guillaume Musso.
Il est numéro un dans mon cœur, mais bon, ça va, il peut arriver au même niveau. Non, il m'a, je cherchais un livre à lire, mais j'avais pas, enfin, j'en avais attaqué plein et j'avais envie de retrouver ce goût à la lecture. Et il m'a acheté, du coup, c'est ça s'appelle Wish de Audrey Carland. Donc c'est une tétralogie pour une série de 4 livres. C'est bien ça qu'on dit, une tétralogie.
Bref, une série Arlène.
Il y a 4 livres, une quadrilogie.
Quadrilogie.
Ouais, voilà, je sais
c'est
pas.
C'est 3, c'est 3.
Du coup, on va suivre.
Non, c'est
la
trilogie.
50 C'est combien, Elodie 60. 60, c'est 60, elle a dit, Elodie. Ouais. Oui, d'ailleurs, ça se dit pas. Ok, merci, Laurie.
C'était
Marlène.
Bien, ça donnait envie.
Allez, on va terminer avec Marlène.
Non,
non,
mais
vas-y, Laurie.
Plus sérieusement, on va suivre. Donc, c'est l'histoire d'une famille. On va suivre une personne par tome. Et. J'avais raison ?
Oui, tu avais raison,
c'est pour une fois.
Pour
j'espère que tu écoutes, Adrien, j'ai raison.
C'est exactement ce que je pensais.
Mais du coup, donc, on va suivre une personne par tome et on va suivre l'histoire d'une famille un peu décalée parce que la mère est partie en voyage autour du monde.
Non, c'est pas la mère, c'est Thomas qui est parti en voyage.
La mère est partie en fait en voyage autour du monde et en fait a laissé ses deux filles à ses parents qui ont un peu dû s'en occuper, les élever. Et en fait, on va suivre du coup dans le premier tome, ça s'appelle Suda Kei, donc je sais pas si je le prononce bien. Une des filles qui a adoré le parcours de vie de sa mère. Et dans le deuxième tome, on va suivre Evie qui n'a pas du tout aimé le parcours de vie de sa mère. Et du coup, on va voir toutes les différences qui ont pu arriver. Et en fait, ça m'a plongée dans une histoire de romance pas prise de tête. À partir de 15-16 ans, parce qu'il y a quand même des scènes de smut assez détaillées.
Des scènes de
smut, des smut. Scènes, des scènes sexuelles.
Ah, pardon. Voilà. Je ne savais pas. J'ai appris twist et smut aujourd'hui. Tiens.
Voilà. Oui, alors inverse pas les deux mots quand tu voudras frimer
j'ai
en société.
Un livre, c'est la fin est smut. Ça ne marche pas.
C'est Angélique.
C'est Angélique.
Mais du coup, si vous avez envie d'une romance vraiment pas prise de tête, bon après, c'est vrai qu'on lit plus ça quand on est plus jeune, mais même moi, à mon âge, du coup à 23, bientôt 24, je pourrais le relire facilement. Et c'est vraiment un livre qu'on lit en été, quoi. Si vous n'avez pas quoi lire cet été,
eh ben, ça
venez l'acheter à la librairie.
Ça tombe bien parce que c'est maintenant.
Ah.
Allez, on est à la bourre là. Marlène Rapidos.
À deux voix.
Très bien. À deux
allez,
voix.
À deux voix.
Nous avons aimé.
Nous avons adoré.
J'ai aimé
tout
aussi.
L'a aimé, tout le monde l'a aimé.
Allez, le parfum de Patrick Suskin. Ah ouais. Mon petit grenouille. JB pour les intimes, est autant perturbant que captivant. C'est plein d'odeurs. Oh, ça porte bien son nom. C'est plein d'odeurs. C'est un thriller haletant, puisque du coup, il naît sans odeur sur les viscères des poissons. Puisque sa mère accouche dans le marché, puisqu'elle vend des poissons. Voilà, elle se fait arrêter, lapider, parce qu'elle le laisse là et qu'il se met à brailler à un moment donné. Mais en fait, toute sa vie durant, il va être oublié, puisqu'il n'a pas d'odeur. Et lui va être à la quête de l'odeur parfaite jusqu'au bout de sa vie. Donc, voilà, je ne sais pas si certains se rappellent la fin, mais elle est aussi très prenante.
C'est pas twist, c'est slot.
Voilà.
C'est smut.
Et en fait, il va commettre plein de meurtres pour extraire le parfum de ces personnes-là qu'il trouve fabuleuses.
C'est pas vraiment des meurs, créer, en fait, c'est de la recherche.
Voilà, mais pour créer son parfum parfait, ouais. Puisqu'en fait, il est né. Il est né. Et que du coup, il va voilà, rechercher cette odeur-là jusqu'au bout, commettre des meurtres pour arriver à son parfum parfait. Et voilà.
Et pour une fois, excellent film.
Ah ouais. Oui.
Aussi bien que le.
Ouais.
Que
le c'est film. Très rare d'avoir.
Et
un
donc,
film,
vous êtes tous d'accord qu'il n'a pas marqué que moi dans ma vie.
Ah non.
Oui, n'est-ce pas? C'est quand même assez impressionnant. Voilà.
Ça voilà. Fait partie des classiques à lire au moins une fois dans sa vie.
Voilà. Voilà. Et on vous le conseille, bien sûr.
Tous, ça c'est bien de finir là.
C'est pas, mal en fait de dernier. Dire nous.
Voilà.
Et les petits jeunes, vous l'avez lu aussi?
Moi, j'ai vu le film que j'ai adoré.
Ah, bon,
mais ça voilà. Marche aussi.
C'est déjà pas mal.
Voilà. C'est aussi bien.
À la limite, pour vos livres de l'été, vous pouvez l'acheter, y acheter d'autres livres qu'on vous a présentés.
Moi, je l'avais
aujourd'hui.
Lu à Grasse.
Mmh. Ah, bah ouais.
Mais c'était génial.
C'est la ville incroyable. Des parfums.
Bah oui, mais justement, c'était ouais. Improbable bah, et c'était génial.
Grasse, oui.
Ça se passe une
part. Une part à Grasse et une part à Paris.
Moi, j'ai fait des apéros à Grasse, mais c'est
rien
une autre histoire.
C'est une autre histoire.
Ok.
Un twist.
Ouais. Ben écoutez, merci beaucoup tout le monde pour cette belle saison. Encore une belle saison d'Un livre sur le zinc qui reviendra bien sûr en septembre.
Avec la rentrée littéraire. Vous allez bouquiner un petit peu les enfants.
J'allais vous proposer les livres qu'on a lus cet été, comme ça.
Ben, on peut faire les livres qu'on a lus cet été qui sortent.
Qui sortent de la rentrée littéraire.
De la rentrée littéraire. Voilà.
Mais la rentrée littéraire, on les aura pas eu cet été.
Mais j'en ai, si, j'en ai 45
là-bas.
J'en
ai 45.
Vous allez m'aider un peu.
Ça va.
Merci, cher
Mère. On est 7. Si on divise, ça on fait une hâte. Tétra livres par personne. Allez, merci beaucoup à tout le monde et on vous retrouve en septembre. Et comme dirait l'autre.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les directionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un ou quand il n'y en a pas un.